allez bien?
Moi aussi. Super. On a passé des super vacances. J'espère que vous avez eu l'occasion de passer de bonnes vacances, de vous reposer. En famille, on est parti quelque temps dans les Pyrénées et après on est allé au bord du lac Léman. Et alors c'était chouette parce que dans les Pyrénées, on était en famille. C'était un temps super. Et puis quand on était au bord du lac, les enfants avaient un camp de voile. Il y avait les cousins, les cousines. Et c'est vrai que c'est le premier été avec Claudie où on les a quasiment pas vus de la semaine. Ils étaient sur le lac. Le soir, ils faisaient du volley. Ils étaient avec leurs cousins, leurs cousines. Et ce qui est super, c'est qu'on a pu avoir du temps pour nous. Et j'ai pu avoir un peu de temps pour moi. Et c'était vraiment un temps béni. J'ai pris le temps de lire ce livre cet été. Un livre de Simon Holly, Puissance durable. Je vous le conseille. Moi, il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a touché. C'est l'histoire fascinante du cheminement de foi d'une église. Et dans ce livre, il explique notamment comment ôter ce qu'il appelle des rochers de nos vies qui empêchent le fleuve de l'esprit de couler. Vous savez, l'esprit, la Bible nous dit qu'on peut lui résister, qu'on peut éteindre le Saint-Esprit, qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et donc, il explique en fait qu'il y a des rochers dans nos vies qui peuvent avoir un impact, non pas que le Seigneur ne soit pas puissant, qui peuvent avoir un impact sur le fait que le flot de l'esprit puisse couler au travers de nous. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et dans ce cheminement, on voit l'Église grandir dans la foi, dans ce qu'ils vivent au niveau de la puissance de Dieu au quotidien, à l'intérieur de l'Église et en dehors de l'Église. Il y a des témoignages extraordinaires. C'est écrit avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'honnêteté. Et franchement, c'est un livre que je vous recommande. Donc, Puissance durable. Et j'ai été particulièrement touché en lisant un passage de ce livre, touché dans mes tripes et troublé aussi à la fois, d'être passé à côté de quelque chose de si évident. C'est comme si j'avais été aveuglé sur cette chose jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Alors, on va essayer de planter le décor, imaginer la scène. J'avais ce livre, j'avais ma Bible, j'étais assis sur un banc face au lac et le Seigneur à mes côtés. C'est génial! Qui me parlait. Et ce matin, j'aimerais tout simplement vous partager ce qui m'a touché. Et je crois que c'est aussi pour notre Église et un domaine dans lequel je pense que nous devons être à l'écoute de ce que nous dit Jésus. Alors, j'enfoncerai peut-être une porte ouverte pour certains, mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ça nous fait du bien de nous rappeler ce que Jésus nous enseigne. Alors, j'ai cherché la petite télécommande. Ça concerne... marche pas. Bon, bah, tu seras à ma télécommande. Merci Elsa. On peut remercier Elsa d'ailleurs. Merci, super, ça marche. Ne jugez pas le jugement. Ça concerne le jugement. Pas le jugement de la fin des temps. Hein. Pas le jugement de la fin. Mais le jugement qu'on peut avoir les uns envers les autres. Alors Jésus vient de commencer son ministère terrestre, il guérit les malades, il prêche la bonne nouvelle du royaume, mais un royaume qui n'est pas forcément ce que certains attendaient, les personnes de l'époque. Jésus n'était pas le messie guerrier qu'ils attendaient pour les délivrer de l'oppresseur romain. Et ses enseignements attiraient les foules, mais déroutaient certains. Et notamment, il y a le sermon sur la montagne, avec les béatitudes que vous connaissez, etc. Il y a des choses qui interpellent. Et au travers de ce que Jésus enseigne, au travers de ce qu'il partage, il conduit les auditeurs qui sont là, et notamment ses disciples, à changer de mentalité dans plusieurs domaines. À changer de mentalité dans plusieurs domaines, et notamment celui du jugement. Alors on va lire ensemble un premier passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, si vous avez vos Bibles, et on va lire du verset 1 au verset 5 ce que Jésus nous dit concernant le jugement. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà ce que nous dit Jésus. Voilà sur quoi j'aimerais partir ce matin. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition de juger. Qu'est-ce que c'est juger? Et donc, voilà la définition du Larousse. Se faire une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un, porter une appréciation, un jugement de valeur à leur sujet. Dans le domaine juridique, c'est le juge qui juge, qui prononce le jugement d'un procès et qui déclare si la personne accusée est coupable ou pas. Et personne d'autre ne peut exercer ce pouvoir. Alors j'ai envie de dire, à l'heure des réseaux sociaux, des informations en continu, des vidéos YouTube et j'en passe, la société et un certain instinct humain, je dirais, nous poussent souvent à trancher, à nous positionner même si on nous dit que la personne accusée est présumée innocente. Même malgré ça, beaucoup sont celles et ceux qui ont déjà tranché la question sans même examiner les preuves ou vérifier que les informations qu'on leur avait données étaient vraies. Alors en quelque sorte, en faisant ça, on usurpe la fonction du juge et on déclare nous-mêmes la culpabilité ou non de la personne accusée. Il n'y a qu'à lire certains commentaires sur Facebook, parfois, et ça taille en pièces. Twitter, c'est pareil. Et si on les regarde, on peut se rendre compte que beaucoup se jugent les uns les autres. Et ici, Jésus nous dit, nous prévient, il nous dit, ne jugez pas. Le jugement, c'est quand orgueilleusement, je me mets à la place du juge en portant des jugements sur les autres que je n'ai aucun droit de porter. Le juge ici, c'est Dieu. Les autres sont les personnes qui m'entourent. Ma famille, mes frères et sœurs dans l'église, mes amis, mes collègues, les personnes que je croise, mes professeurs, mon garagiste, les politiques, une église, un responsable, mon voisin. Je pourrais faire une liste très très longue. Le juge, mon prochain, quand je prononce un jugement sur lui à la place de Dieu. Alors, je vais essayer d'imager un petit peu ça, mais j'ai acheté une voiture, une Laguna, qui est malheureusement tombée beaucoup, beaucoup en panne. Et je ne vais pas vous dire tout ce à quoi j'ai pensé, mais mon garagiste, pendant un certain temps, je ne l'ai pas porté dans mon cœur. Enfin, du moins le garagiste qui m'a vendu la voiture, parce que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de soucis. Un autre exemple. Imaginons, on est dans la pièce, et puis il y a une personne qui se met à trembler et à rire. Et puis là, je me dis, elle tremble, elle rit soi-disant parce qu'elle est touchée par le Seigneur, mais c'est du cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus nous dit, ne jugez pas. Alors, il ne demandait pas à ses disciples de ne pas discerner le bien du mal. Ce n'était pas du tout la question. Il disait de ne pas juger. Et la différence entre le discernement et le jugement, c'est que le jugement nous amène à un sentiment de supériorité envers la personne que nous sommes en train de juger. C'est ça la grosse différence entre le discernement et le jugement. C'est que ça nous amène à une position de supériorité. On a l'impression qu'on est meilleur qu'elle, qu'on vaut mieux qu'elle. Et l'image de Jésus nous le montre bien. J'aime bien ce dessin. Il est horrible. La poutre et la paille, exactement. On veut enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère alors qu'on a une poutre dans le nôtre. Et c'est ce sentiment de supériorité qui nous rend hypocrites. On s'imagine qu'on vaut mieux que la personne que nous jugeons. Alors, je m'excuse, c'est un peu délicat de parler du jugement. Je ne veux surtout pas que vous vous sentiez jugé, ni que vous me jugiez. Mais je pense que c'est un sujet important. Je peux discerner à juste titre que la trahison de mon collègue de boulot envers sa femme en allant vers une autre est mal et que c'est un péché. C'est juste. Toutefois, ça devient du jugement si je finis par me sentir supérieur à ce collègue de travail. Si je commence à avoir des pensées comme « moi, je ne ferai jamais une chose pareille. » Tu entends ce qu'il a fait? Est-ce que tu peux croire ce qu'il a fait? Si ces petites phrases viennent, alors c'est que j'ai déjà franchi la limite entre le discernement et le jugement, et ça révèle un état de cœur qui est enclin au jugement. Alors je vais prendre d'autres exemples, en apparence moins dramatiques que celui-ci. Elle vient de doubler tout le monde dans la file, mais il y a quelqu'un qui intervient. Ah, c'est bien fait pour elle. Elle tremble de tout son corps encore pour attirer l'attention, car c'est sûrement pas le Saint-Esprit qui la touche. Lui, il a donné son cœur au Seigneur, vraiment? Vraiment, il a donné son cœur au Seigneur? Avec le coup vache qu'il m'a fait hier, je ne risque pas de lui proposer la prière. Je caricature, hein, mais des fois, il y a un peu de ça. Peut-être. Juger, c'est aussi quand j'interprète l'attitude de cœur de la personne qui me blesse. Par exemple, Farid ne m'a pas dit bonjour ce matin. Alors, c'est pas vrai. Hein. Mais Farid n'a pas dit bonjour ce matin. Et je me dis à tous les coups, il ne m'a pas dit bonjour parce qu'il n'a pas apprécié qu'au déménagement de Ludovic et Jenny hier, je le fasse porter l'énorme meuble seul en haut alors qu'on était trois en bas. Qu'est-ce qu'il est rancunier ! On prête des intentions à l'autre qui sont pour la plupart du temps fausses ou infondées. Ça ne vous arrive pas parfois ? On prête des intentions à l'autre quand on est blessé, quand on est touché, quand on est troublé par un mot, par un geste, par un comportement, par une attitude. Je ne sais pas pour quelle raison, mais moi, ça m'arrive souvent. On cogite. Mais pourquoi elle a dit ça ? Pourquoi elle a fait ça ? Mais pourquoi elle n'a pas fait ça ? Pourquoi elle n'a pas dit ça ? Et on prête des intentions et on imagine des choses dans le cœur de la personne. Personnellement, j'ai réalisé qu'à bien des reprises, dans de nombreuses situations, j'ai porté des jugements dans mon cœur. J'étais assis sur un banc, face au lac de Genève, et dans mon esprit venaient une à une les situations, les personnes que j'avais jugées. Et punaise, que la liste était longue. J'ai réalisé qu'en faisant cela, j'avais usurpé le pouvoir du juge, par orgueil, pour me sentir meilleur. Même si dans certains cas, j'avais raison, j'avais aussi affreusement tort. Car ce que j'avais discerné était devenu du jugement dans mon cœur. Et j'ai dû demander pardon. Quand nous jugeons, nous nous sentons importants, mais nous avons oublié quelque chose, nous avons oublié la grâce dont nous avons bénéficié. Une autre parabole que Jésus nous donne. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Quand il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Beaucoup, 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 beaucoup moins que ce qu'il devait à son maître. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait disant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais lui ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Il est insensé d'imaginer que nous sommes meilleurs que l'autre face au péché. C'est de la pure folie. La Bible déclare que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est vous, c'est moi. Et la grâce dont nous avons bénéficié et qui se trouve en Jésus, notre avocat, celui qui a offert sa vie pour nous en rançon et pour tous. Dans Jean 3, verset 17, il nous est dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si Jésus était venu nous juger, si Jésus était arrivé pour exercer un jugement sur le monde, nous ne serions pas là. Personne n'aurait résisté face à son jugement. Mais la patience et l'amour de Dieu pour les hommes ont envoyé Jésus pour les sauver, pour leur laisser le temps de recevoir le message de la bonne nouvelle, leur laisser le temps d'accepter Jésus dans leur vie comme leur sauveur. Bien qu'ils soient tous mauvais par nature, c'est un don offert gratuitement aux hommes qui veulent le recevoir. Farid a fait un appel ce matin, quelqu'un pour qu'il donne son cœur à Jésus. On est dans ce temps de la patience de Dieu. On est dans ce temps où il te donne le temps de le rencontrer, de venir à Jésus, d'être sauvé par Jésus. C'est pour cette raison que Jésus nous met en garde. Et de plus, Jésus nous enseigne que si nous jugeons, nous devrons être jugés selon les mêmes critères que nous avons usés pour juger. Il y a un autre texte dans Romains 2, alors je ne vais pas le lire en entier, mais le premier verset qui dit « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » C'est raide. Dans le livre de Simon, il y a une citation que j'ai reprise de Spurgeon, que je trouve excellente. Cela nous fait du mal de juger nos prochains parce que cela nous flatte dans notre vanité et notre orgueil grandit bien assez rapidement sans qu'on le nourrisse. Nous accusons les autres pour nous excuser nous-mêmes. Nous sommes si insensés de songer que nous sommes meilleurs parce que les autres sont pires. Et nous parlons comme si nous pouvions nous élever en rabaissant les autres. Quel bien y a-t-il à remarquer les trous dans les manteaux des autres si nous ne pouvons pas les réparer ? On ne devrait pas faire étalage des fautes d'un ami, et même celles d'un étranger ne devraient pas être publiées. Celui qui brée à un âne est un âne lui-même. C'est génial. Et celui qui se moque d'un autre est lui-même un sot. Si je suis en train de juger les autres, alors c'est que je n'ai pas totalement compris la valeur de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai besoin de me repentir et de revenir à Dieu. Quand je pensais à tout ça, j'ai pensé, c'est marrant, mais à mes beaux-parents, pour ceux qui les connaissent, Francis et Christine. Ils ont traversé des épreuves avec des personnes qui leur sont proches. On leur a fait du mal, vraiment. Et en y réfléchissant, je me dis qu'ils avaient des raisons mais extraordinaires pour juger ces personnes, pour ne plus vouloir être en colère contre ces personnes, pour ne plus vouloir être en relation avec ces personnes. Mais je dois témoigner que j'ai jamais vu ça. C'est toujours la patience, l'attente, l'espérance. C'est de l'amour en continu et pas de jugement. Ils reconnaissent les situations, ils reconnaissent ce qui est bien, ce qui est mal, mais ils font confiance à Dieu pour ce qui va se passer par la suite. Toujours une parole d'amour. Une autre chose que l'esprit de jugement fait est qu'il destitue les personnes de leur valeur. Romains 14, verset 10 nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Il est question dans ce verset de regarder son frère de haut, comme s'il n'était rien. Le jugement amène à mépriser et regarder de haut un autre être humain qui est pourtant fait à l'image de Dieu. Soit en considérant que son opinion n'a pas de valeur, ou plus grave, que lui-même n'a pas de valeur. Proverbe 6, versets 16 à 19 nous disent « Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui déchaîne les querelles entre frères. 7 choses dont l'Éternel a en horreur. » Pour celles et ceux qui l'ont reconnu, c'est Cersei Lannister, dans la série Game of Thrones. Elle résume à elle les 7 points. Mais c'est ça, le regard hautain. On est en plein dedans. Celui qui déchaîne les querelles entre frères. Tout ça, il s'agit de ce dont Dieu déteste le plus. En portant des jugements, nous attristons le Saint-Esprit. Je vous invite à lire, si vous avez le temps, cette semaine, Éphésiens 4, la deuxième partie, et vous allez voir toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit. Et si on veut que le Seigneur agisse par son Esprit au travers de nous, nous devons nous débarrasser de ce que Dieu déteste le plus. Et le jugement en fait partie. Il fait partie de l'un des rochers à enlever de nos vies et de l'Église pour permettre au fleuve de l'Esprit de couler, comme le témoigne Simon dans son livre. Je vais lire un autre texte dans l'évangile de Jean. Si vous avez vos Bibles, on va prendre au chapitre 8. Vous le connaissez, ce texte. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne. Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche pas. » Ne pêche plus. Celui-là même, Jésus, qui était le seul endroit de juger, ne le fait pas. Il lui laisse le temps de se repentir. Il lui dit simplement, va et ne pêche pas. Il ne lui dit pas, tes péchés sont pardonnés. Il ne lui dit pas, c'est pas grave. Va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Cela tranche nettement avec l'attitude des pharisiens qui voulaient le lapider. Et c'est ça le contraste entre le jugement et le discernement. L'un fait tomber le couperet le plus tôt possible, l'autre le retient aussi longtemps que possible. Il est dit que Jésus était l'ami des pêcheurs et des péagers, des collecteurs d'impôts, des collecteurs de la taxe romaine. Zachée était l'un d'eux. Il était même le chef des péagers. Et pourtant, il est écrit qu'il va recevoir Jésus avec joie chez lui. Pourquoi ? Il a reçu Jésus avec joie. Lui, le chef des collecteurs d'impôts, qui, on le sait, pour certains, avait tendance à voler ou à demander un peu plus. Jésus ne portait pas de regard accusateur. Au lieu de cela, Zachée a reçu une offre de pardon et de grâce. Les pécheurs et les collecteurs d'impôts ont passé des années à être jugés et condamnés par les religieux de l'époque. C'est pour cette raison qu'ils étaient si captivés par Jésus. J'ai vraiment réalisé que si nous voulions être une église qui porte du bon fruit, il fallait que notre amour pour notre prochain soit authentique et dépourvu du jugement. Il y aura un jugement quand Jésus reviendra. On aura tous à rendre des comptes sur ce que nous aurons ou pas fait, mais il ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas. La Bible nous dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner en retour gratuitement. Alors comment on fait ? Ça commence par une prise de conscience. Quand j'étais assis sur mon banc face au lac, c'est comme si je trouvais quelque chose de super important, évident, mais à côté duquel j'étais passé. C'était tellement logique et à la fois tellement, j'étais tellement aveuglé. Et je pense que le Saint-Esprit, à ce moment-là, m'a conduit dans la vérité, celle qui rend vraiment libre. Je me suis rendu compte que les jugements que j'avais portés m'avaient volé la compassion pour les autres. C'est ça que le jugement fait. C'est un venin qui vous vole la compassion pour les autres. C'est difficile d'aller vers les autres pour apporter la bonne nouvelle, pour proposer la prière quand dans votre cœur intérieur ou dans votre tête, vous les avez jugés la semaine d'avant, le mois d'avant, le jour d'avant. Ces jugements sont un venin qui vous vole la compassion pour les autres. Ça, c'est la première étape. C'est la prise de conscience, l'électrochoc. Vous savez, quand la personne, il y a le cœur qui ne bat plus, une décharge. La deuxième étape, c'est de se repentir. À cet instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit m'a rappelé à ma mémoire, et il le fait encore aujourd'hui, des personnes, des situations sur lesquelles j'ai porté des jugements, des regards supérieurs, des pensées hautaines, comme on dit. C'est là qu'il faut demander pardon. Reconnaître que nous avons péché et demander pardon. C'est aussi simple que ça. Et encore aujourd'hui, il y a des moments, je suis dans la voiture, je vais au boulot, bon là particulièrement parce que je pensais à mon message, je pense, mais une pensée, une personne, une situation, Pierre, là, le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose. Et bien tout simplement, c'est Seigneur, je réalise que là j'ai fait du mal, je réalise que là j'étais pas dans ta volonté, je réalise que mon cœur là était tordu, que mes pensées étaient tordues, que j'ai dit du mal, que j'ai pensé du mal, et vraiment je te demande pardon Seigneur. Je demande pardon d'avoir fait ça. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est renoncer à l'esprit de jugement. Abandonner cet esprit et commencer à marcher dans la liberté. Changer de mentalité. C'est ce que je disais au début. Quand Jésus enseignait les foules, le sermon sur la montagne, il voulait qu'ils changent de mentalité dans plein de domaines. Dans plein de domaines, et notamment dans celui du jugement. Alors au départ, il nous arrivera de juger encore. Ça m'arrive encore, bien sûr. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. C'est que quand ça m'arrive, j'ai la conscience de ce que je suis en train de faire et de ce que j'ai fait. Et donc rapidement, je peux me reprendre et me dire pardon, Seigneur. Et je suis convaincu qu'avec l'aide du Saint-Esprit dans nos vies, petit à petit, on va apprendre à marcher de victoire en victoire. Et ce qui est beau, c'est qu'à la place, et ça j'en ai la certitude, la compassion va prendre de plus en plus de place. On est une église qui voulons aller vers l'extérieur, qui voulons sortir de nos quatre murs. On va démarrer des cultes très bientôt. On a eu la réponse cette semaine ou la semaine dernière. On va avoir le local de l'armée du salut à côté des arènes, face au lycée d'Odé, c'est extra. On aura pignon sur rue au centre-ville de Nîmes. C'est l'autre, rue Régal, mais on sera au centre-ville. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir aller vers ces gens qui sont là. Et il faudra qu'on le fasse avec un regard d'amour, un regard de compassion, sans jugement, sans a priori. On veut être une église qui est ouverte et qui accueille tout le monde. Peu importe son arrière-plan, peu importe ce qu'elles ont fait, ce qu'elles font, peu importe leur situation maritale, peu importe leur orientation sexuelle, on veut être une église qui accueille, qui discerne ce qui est bien de ce qui est mal, mais une église qui est sans jugement, qui est comme Jésus, qui a un regard d'amour et qui laisse le temps aux personnes de rencontrer Jésus, qui laisse le temps aux personnes de venir à lui, de demander pardon et d'avoir une vie transformée. C'est en abandonnant l'esprit de jugement que notre amour pour les autres devient réellement authentique et que la compassion pour le monde va grandir. On a le meilleur des modèles dans la Bible en la personne de Jésus-Christ, bien sûr. Lui qui était en position de pouvoir juger, nous juger par amour pour nous, et malgré le fait que nous l'ayons maltraité, qu'on l'ait crucifié, il a préféré souffrir et donner sa vie pour nous donner un espoir, pour nous racheter, pour que nous puissions trouver le pardon, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il n'est pas venu nous juger, mais il est venu nous sauver. Et il nous exhorte à faire la même chose. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Tout simplement, quelque chose qui m'a touché dans ma vie, qui je pense est important pour nous. Je vous invite à fermer les yeux et on va prier ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que ta parole libère, ta parole transforme. Merci Jésus pour ton enseignement. Merci pour ces lois du royaume que tu es venu amener. Un autre royaume, pas celui que beaucoup attendaient, mais un autre bien différent, qui sauve, qui libère. Vraiment merci Jésus d'être venu nous sauver. Pas nous juger, d'être venu nous sauver. Merci pour ta patience, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es toujours là. Merci parce que tu as des bras grands ouverts et parce que tu sauves. Et tu sauveras encore. Merci parce que tu es tout puissant pour nous libérer, pour nous délivrer de cet esprit de jugement. Merci parce que tu ouvres nos yeux, mais tu ne t'arrêtes pas là. Merci parce que tu touches nos cœurs, tu touches nos pensées. Tu nous rappelles tous les moments où on est tombé et tu donnes cette possibilité de venir à toi pour demander pardon. Et tu veux nous appeler à marcher dans une nouveauté de vie. Tu veux que cette compassion, la compassion que tu avais pour les personnes que tu croisais grandissent dans nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit.